Gymnastique sonore.
Une émission de développement musculaire
intra-auriculaire.
C'est l'heure de la création radiophonique sur Canal B.
Bienvenue dans Gymnastique sonore, un programme de l'association Bande Magnétique qui vise à développer les biceps auriculaires grâce à des exercices d'écoute hebdomadaires savamment élaborés par les auteurs et autrices. Aujourd'hui, on diffuse deux documentaires de Jeanne Lévéder, une créatrice sonore rennaise. On fait place aux étoiles dans les nuits sans sommeil. Avec Résonance, on plongera dans les ondes cosmiques. Mais d'abord, on écoute « Faire quelque chose de la nuit ». À quoi ressemblent les nuits de celles et ceux qui ne dorment pas ?
Je pense que ça fait... longtemps que dormir c'était pas vraiment une question et que depuis quelques années ça l'est devenu quoi. Par la force des choses, parce que si ça devient un problème on y réfléchit et je pense qu'avant j'avais jamais réfléchi au sommeil.
Je pense les premières fois où j'ai mis un mot dessus, j'avais 18 ans. L'année où j'étais partie de chez mes parents, j'avais mon premier appart, j'étais à Paris. Première année d'études supérieures. Et je pense que c'est là où j'ai eu mes premières insomnies.
Qu'est-ce que je vais faire de mon avenir? Qu'est-ce qui va se passer? Comment va se dérouler ma vie? Où est-ce que je vais? Est-ce que je vais bien faire? Est-ce que tout va bien se passer pour moi?
Un truc de contexte vraiment plus stressant où on se dit qu'il va falloir faire un truc de notre vie, ça peut jouer quoi. Et en fait, je me réveille tous les quarts d'heure, 20 minutes, j'ai comme si j'avais un espèce de sommeil super léger depuis cette période quoi. Je pense que c'est à peu près constant et il y a juste des moments dont je me souviens où je dors bien, mais c'est plutôt basé sur le fait que je dors mal en général.
Toutes les nuits, presque. Ça revient à peu près toutes les nuits. Nuit complète, ce que j'arrive à dormir au mieux, c'est 5-6 heures d'affilée.
5 jours. Ouais, 4-5 jours. Rarement plus. Enfin, je crois pas que j'ai passé des semaines à pas dormir, quoi. Mais 5 nuits, déjà, c'est beaucoup.
Je suis pas sûr de penser à des choses différentes de la journée ordinaire. Je crois que je me pose les mêmes questions.
Il y a un truc qui va m'angoisser, et ça va s'ajouter à d'autres angoisses que j'ai, et en fait ça va créer une insomnie, quoi.
Et souvent c'est des pensées un peu entêtantes. Des phrases à la volée, quoi. Des pensées qui sont un peu brouillonnes, puis qui sont aussi en contradiction pendant la nuit.
C'est un truc qui s'arrête jamais, quoi. Il peut y avoir un fil rouge, mais je reviens jamais dessus le matin. Je me dis pas, tiens, j'ai pensé à ça toute la nuit. C'est plutôt un truc très décousu, très... un flot de pensée, vraiment, quoi.
En boucle, la même chose. Des espèces de fixettes, en fait. Je saurais pas comment les décrire autrement que comme des espèces de vagues et des boucles de pensées qu'on peut pas maîtriser, quoi. Mais...
Tu te revois vivre des nuits que t'as déjà vécues, et du coup, bah... C'est un cercle vicieux, quoi, t'en sors pas.
Tu dors pas, tu stresses parce que tu dors pas, que tu vas être fatigué, et voilà.
Et du coup, j'appréhende tellement ça que ouais, bah forcément, ça se produit, quoi. Plus, le pire, c'est que je pense pas forcément à ce qui m'empêche de dormir. Moi, je pense vraiment à tout et rien. Mais dans un tourbillon, ça va très, 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 très vite, quoi. Ouais, c'est du bruit intérieur.
Je pense qu'il n'y a jamais un silence total. Mon rapport au silence, en fait, il est déjà biaisé par le fait que je m'arrête pas de penser. Même si c'était entièrement silencieux, ce qui est impossible, ça ferait du bruit. Enfin, je sais pas comment dire, mais pour moi, ce serait pareil. souvent, ça prend le sens de question. C'est à l'interrogatif. Si je devais le dessiner, peut-être que je ferais un point d'interrogation, tout simplement. C'est comme si je réfléchissais, en fait. C'est pas foncièrement négatif, c'est juste c'est actif. Vraiment ce sentiment de pas faire de pause. Des fois, je me réveille la nuit et je fais « Ah ouais, là, ce serait bien de débrancher un peu, quoi. »
J'ai développé des tocs du sommeil aussi. T'as tellement envie de bien dormir que t'as plein de trucs qui apparaissent. S'il y a un petit bruit, ça, je supporte pas. S'il y a trop de lumière, je supporte pas. Si mes cheveux sont dans mon cou, je supporte pas. Il faut qu'ils soient relevés sur l'oreiller. Et c'est arrivé que j'aille 30 fois dans la nuit aux toilettes, ou même c'est arrivé que je ne dorme pas de la nuit du tout. J'avais vraiment pas du tout besoin physiologiquement d'aller aux toilettes, mais c'était vraiment une pression du cerveau, quoi. Je pense sur la vessie, j'avais l'impression de la sentir. Alors que pas du tout, quoi. Je sais pas pourquoi j'ai développé autant de tocs, mais c'est vraiment des tocs, pour le coup, je pense.
Mon corps est tellement tendu, et c'est vraiment, une tension nerveuse, quoi, que il est incapable de s'adonner au sommeil.
Je me retourne beaucoup, en fait. Je sors un pied, je remets le pied sous le lit... Enfin, je sens que mon cœur, il bat plus vite. Ça peut m'arriver de transpirer plus que d'habitude.
J'ai chaud, j'ai froid. Enfin, il y a une espèce d'inconfort du corps, quoi.
Tout est raide et j'entends pas autour de moi. J'entends vraiment qu'une musique intérieure très étouffée et pas toujours très mélodieuse, mais... Et que mon cœur bat dans plusieurs de mes membres. Je le sens partout, quoi. En fait, je suis tellement focalisée sur les tensions dans mon corps que ça peut pas m'aider, quoi, de me dire qu'il y a ma couette et que je peux m'envelopper dedans. Ça m'aidera pas. Je suis allongée dans mon lit, mais c'est comme si j'étais dans une énergie de journée, quoi.
Détendez votre corps. Ça marche moyennement sur moi, je pense, parce que j'ai tendance à trop à repartir quand même dans les pensées et ça marche pas trop.
En fait, dans tous ces trucs de détente, on essaie toujours de te ramener à tes sensations du corps pour un peu quitter l'esprit, quoi. Et donc, j'ai appris un peu à faire ça. Je dirais pas que ça marche hyper bien. Ça me fait un peu péter un câble, tous ces trucs de méditation, de cohérence cardiaque et tout. J'arrive pas du tout, mais alors pas du tout à m'y mettre. Donc je fais rien. Je fais rien parce que commencer une activité, c'est accepter que t'es en train de traverser une insomnie. Et je pense que je suis toujours un peu dans le déni. Enfin, même si je sais que je suis en train de le faire, je veux pas aller jusqu'au bout du truc, quoi. Donc non, souvent, je fais rien. Parce que j'ai toujours espoir qu'en fait, que ça se calme dans les 5 minutes qui suivent, quoi. Et j'ai peur qu'entreprendre quelque chose, ça me coupe. Même si je dors pas, j'essaie de trouver une détente et de faire en sorte que ce moment soit récupérateur et qu'il ne serve pas à rien, quoi.
Quand je me couche et que je sais que je vais faire une insomnie, que je le sens, je suis déjà résignée. J'ai abandonné l'idée de dormir et j'ai abandonné l'idée de faire quelque chose de la nuit. Je suis tellement travaillée par quelque chose que de toute façon, je ne vais pas réussir à me lever pour aller écrire ou... lire ou regarder quelque chose ou écouter la radio, je sais pas. Et j'arrive pas à me battre contre ça, quoi.
Je m'ennuie. Je regarde l'heure souvent et je me dis encore une heure, encore 2 heures. Au bout de 2 heures, je craque, je mets un petit peu la télé pour me rendormir. Quand ça marche pas, je me lève et je commence ma journée. En général, à 3 heures, je reste quand même dans le lit, mais j'attends 4 heures. Je me dis que je ne me lève pas avant 4 heures au plus tôt.
J'attends un quart d'heure, une demi-heure, une heure des fois.
C'est comme si je courais après le temps qui avance file, et moi je suis là à vouloir l'arrêter pour dormir et pas le voir défiler impuissante jusqu'à l'heure presque de me lever, quoi.
Le vrai sketch de l'insomnie, c'est qu'il y a un truc de l'ordre de la temporalité complètement étendue, complètement détruite, complètement... Enfin, en tout cas, ça suit un autre cours, quoi. Le temps est hyper long, tu te réveilles 5 minutes après le précédent réveil, t'es complètement paumé, tu regardes le téléphone et ça fait juste 5 minutes, du coup t'as l'impression d'avoir dormi, en fait non. L'insomnie vraiment négative, c'est celle-là, quoi. C'est celle où je me bats pour faire passer le temps un peu, quoi. Une nuit longue, c'est souvent une mauvaise nuit, quoi.
Le début de la nuit, il est très très long. Je regarde souvent mon portable et j'ai l'impression que ça passe très très lentement. Et en fait, j'ai l'impression que ce sentiment, il s'inverse autour de 5h du matin. Et je me dis, bon, il me reste peut-être encore 3h. Peut-être je vais réussir à m'endormir. Et en fait, entre 5 et 7 ou 8, ça va super vite. Et il faut déjà se lever.
C'est tellement le pire truc de vouloir dormir, de pas y arriver, de devoir enquiller sur une journée où t'es crevé et t'avais tout ton temps pour dormir, tu t'es pris à l'avance, tu t'es couché tôt, t'as tout fait pour que la nuit se passe bien et ça se passe pas bien, ça rend fou, quoi.
En termes d'irritabilité, bah évidemment, ça empiète sur la maîtrise de soi, on est un peu moins patient, on est obligé de faire à l'économie en gros, quoi.
Du coup, je compense par une espèce de tension nerveuse. Tu trouves de l'énergie là où tu peux en trouver. J'ai plein d'amis, quand je suis comme ça, ils disent « Ah bah t'es en forme aujourd'hui, quoi. » Parce que du coup, t'es pas dans la détente. Parce que tu sais, si tu te laisses aller à cette détente-là, bah c'est fichu, quoi. T'as aucune énergie. Donc tu compenses, quoi. T'es sur les nerfs. Tu restes un peu dans cet état dans lequel t'as été la nuit où tu cogitais. Mais c'est pire. Parce que du coup, ça veut dire qu'il y a... Entre la nuit et la journée, t'as pas eu de moment où ton cerveau il s'est reposé. Donc la nuit d'après... Et ben en fait t'es encore dans ce truc de tension nerveuse et des fois c'est hyper dur de redescendre. Et donc tu tiens, hein, tu peux tenir comme ça pas mal de temps, mais au bout d'un moment t'es vraiment sur les rotules. Donc maintenant j'essaie de m'observer aussi, je me dis si je suis comme ça, c'est cool, enfin il y a du positif pour la journée parce que j'arrive à être présente, mais il faut vraiment que j'arrive à relâcher un moment pour la nuit, quoi, pour me préparer à la nuit qui arrive. Tu peux pas enquiller des nuits sous tension, des journées sous tension nerveuses comme ça.
Il y aura une période de récupération où là, le corps ne peut plus... on ne peut pas aller plus loin, quoi. Il sera à bout, donc je dormirai, voilà. Donc j'attends.
J'ai passé une nuit horrible, horrible, horrible. Et je me suis vraiment demandé si j'allais pas devenir folle. Mais très sérieusement, quoi. Je me suis vraiment demandé est-ce que je vais pas devenir folle. Des bouffées délirantes, des hallucinations, des propos incohérents. Enfin, je connais plusieurs personnes pour lesquelles ça s'est développé comme ça. Une autre amie aussi m'a parlé de ça récemment. Qu'elle avait frôlé de près le séjour psychiatrique parce que elle a pas dormi pendant une semaine, elle a pas fermé l'œil. Et elle a commencé à développer des... vraiment des choses qu'elle avait jamais développées avant, quoi. Donc ça fait peur, en fait, quand tu sais tout ça. Enfin, je pense jamais à ça quand je dors pas. Mais si t'analyses un peu le truc, tu te dis, ouais, c'est chaud, quand même.
J'ai vraiment l'impression que c'est central, en fait, dans la vie, de pouvoir dormir, avoir un sommeil sain, quoi. Parce que parfois, je me dis, mais ouais, je dois vraiment passer pour une tarée. Enfin, ou je suis peut-être complètement tarée, en fait. Parce que je dors pas assez et que, en fait, je me pousse à bout, je pousse mon corps à bout. Et qu'est-ce que je renvoie si je suis tout le temps fatiguée, tout le temps... Enfin voilà, me plaindre de pas avoir assez dormi, ça doit être chiant même pour les autres et peut-être que tout le monde comprend pas forcément, je sais pas.
Faudrait que je m'endorme au bout d'un moment parce que j'ai pas envie que l'autre s'aperçoive que j'ai pas dormi, quoi. J'ai l'impression que quand je le dis, la personne en face de moi, elle va se dire que je suis quelqu'un d'intranquille. Mais en fait, je pense qu'on est beaucoup à en faire et qu'on a mille raisons d'en faire, mais j'ai toujours l'impression que ça montre un pan de notre personnalité. Une part de nous assez vulnérable, enfin en tout cas on s'expose.
Tu sais que tout le monde dort, sauf toi, dans la maison, dans l'appart, dans l'immeuble. Mais ça me fait pas peur, quoi. J'aime bien ça, j'aime bien ce moment. Parce que paradoxalement, même si toi, t'es en pleine insomnie, donc a priori en état de stress ou d'anxiété, ou je sais pas, tout autour fait que c'est relaxant, quoi. J'aime bien ce moment-là.
La nuit, c'est une sorte de paix, des fois, quand on a beaucoup avancé dans sa journée et que la nuit, bah, fatalement, les trucs sont un peu en plan pour tout le monde.
C'est le moment où tout est silencieux. Et je crois que je suis quand même quelqu'un d'assez solitaire et j'ai besoin de ces moments-là aussi pour me retrouver avec moi-même, quoi.
Peut-être qu'on prête plus attention au silence pendant la nuit, quoi, où du coup on écoute les choses. Moi j'habite en plein centre-ville et du coup il n'y a pas vraiment de silence. Enfin, quand juste il y a moins de bruit, bah en fait c'est marrant ce qui ressort de tout ça, quoi. Dans le paysage sonore, il y a un truc. Il y a moins d'éléments tout simplement la nuit. Et du coup ça affleure plus l'oreille et c'est plus hiérarchisé. Parce que forcément, s'il y a moins de bruit, bah, on entend mieux ce qui se passe et on les hiérarchise plus parce qu'on entend un truc au premier plan, un truc au deuxième plan, un truc... Je crois qu'il y a un côté poétique là-dedans. C'est peut-être ce qui m'intéresse. Avoir des impressions qu'on ne peut pas avoir le jour quand il y a plein de monde. Une petite activité qui est perceptible grâce aux lumières, grâce au bruit qu'on perçoit parce qu'on sait que c'est de l'activité humaine et que ce n'est pas naturel. Ces lumières, pourquoi elles sont allumées ? On ne sait pas ce que c'est que cette vie qui bouge, mais ça vit quand même.
Faire quelque chose de la nuit, de Jeanne Lévédère.
Je ne sais pas si ça contribue, s'il y a un besoin de vivre ce type de moments qui font que ben je veille. Est-ce qu'il y a un lien, peut-être ? Besoin, de temps en temps, d'être au grand calme, dans des ambiances peu ordinaires.
Merci à Julia, Céline, Lucie, Mathieu, Loïc, Sylvie et à l'ensemble du Créadoc. Créadoc, Angoulême, décembre 2021.
Dans l'espace, il n'y a pas de son, si ce n'est celui de notre imaginaire. Entre ondes gravitationnelles et ondes sonores, les voix d'une astrophysicienne et d'un compositeur résonnent et nous donnent à entendre leurs espaces imaginés. On écoute Résonance.
Au milieu de l'espace où il n'y a quasiment pas de molécules, pas d'atomes, il n'y a pas de son.
Le vide ne porte pas le son. La première fois que j'ai eu envie de composer, c'était une époque où on parlait beaucoup du Big Bang. Et je me suis dit, ben voilà, je vais imaginer le son du Big Bang. En termes de matière sonore, tu dois tout imaginer, puisqu'il n'y a pas de son du Big Bang. Ça permet d'avoir un espèce de cadre et à la fois, bah, tu as cette liberté totale. Personne ne peut te dire que tes sons n'ont rien à voir avec le cosmos, parce qu'il n'y a aucun son qui a à voir avec le cosmos. C'est un espace de liberté, là. Puis pour moi, c'est une source d'inspiration. Puis je ne suis pas le seul. Le cosmos, ça inspire les compositeurs depuis longtemps.
Thank you.
Je pense à du calme. Paisible, tout doux, et donc ce côté calme me plaît beaucoup, en fait. Les ondes gravitationnelles, vu qu'elles sont toutes petites quand elles arrivent sur Terre, même si elles viennent d'un phénomène cosmique extrême, c'est ce côté doux et calme. Peut-être qu'il y a quand même un peu de son, mais c'est doux. Presque comme une caresse ou des bruits des vagues, mais que c'est un peu lointain. J'ai plutôt une imagination comme ça. Au sens physique, la définition d'une onde, c'est un déplacement d'énergie sans déplacement de matière. En fait, il y a plein de formes d'énergie dans l'univers. Quand il s'agit d'énergie mécanique, on va avoir de la propagation d'ondes sonores et l'énergie gravitationnelle, donc le fait que vous avez des masses qui se déplacent, vous avez la propagation d'ondes gravitationnelles. Qu'il y ait une onde sonore, il faut qu'il y ait un milieu dans lequel se propager. Une onde gravitationnelle étant la déformation de cet espace lui-même, elle peut se propager n'importe où. L'espace-temps, c'est en fait une conceptualisation mathématique de l'univers dans lequel on vit. On doit ce concept à Einstein, et c'est juste les trois dimensions de l'espace dans lesquelles on vit tous les jours, à laquelle on a rajouté le temps. L'espace-temps peut être déformé par un objet massif. En fait, n'importe quelle masse qui se déplace dans l'univers crée des ondes gravitationnelles, presque. Dans la réalité, on est capable de détecter que les ondes gravitationnelles très fortes. Pour l'instant, celle qu'on a détectée, c'est lorsqu'il y a la fusion d'objets extrêmes comme des trous noirs ou des étoiles à neutrons. Quand vous en avez deux qui sont proches l'une de l'autre, pendant longtemps elles vont se tourner l'une autour de l'autre, elles se rapprochent petit à petit, ça dure des milliards d'années, et tout à la fin, on a deux masses extrêmement proches qui donc déforment beaucoup cet espace-temps. Au moment de la coalescence, en fait, il y a une libération d'énergie extrêmement importante sous la forme de ces ondes qui vont se propager un peu de la même façon que quand vous jetez des cailloux dans l'eau, vous avez des petites vagues qui se propagent. On peut voir la coalescence de deux trous noirs comme la propagation de ces vagues parce qu'on vient de jeter un très gros caillou dans l'eau. Pour l'instant, les ondes gravitationnelles qu'on est capable de détecter sont donc de l'ordre du kilohertz. Kilo, ça veut dire 1000. Et donc, elles sont liées à des phénomènes qui ont lieu 1000 fois par seconde. Donc, c'est pour ça que c'est des objets qui se tournent l'un autour de l'autre extrêmement vite et qui sont en fait sur le point de fusionner, parce que 1000 fois par seconde, c'est déjà assez extrême. Et donc, la prochaine étape, c'est la fusion. Les astronomes ont toujours regardé le ciel. On a
commencé à faire ça, et depuis on construit des télescopes de plus en plus précis, et maintenant on écoute le ciel en quelque sorte. La difficulté des ondes gravitationnelles, c'est effectivement qu'on a beaucoup de mal à savoir d'où elles viennent. Certains chercheurs, évidemment, sont engagés sur cette thématique depuis longtemps, mais pour beaucoup d'astrophysiciens, c'est tout nouveau et c'est encore quelque chose qu'il faut s'approprier. En fait, il faut apprendre à se dire « tel objet existe quelque part dans notre galaxie, mais je ne sais pas où il est ». Et comment est-ce qu'on utilise cette information quand même pour faire de la science ? Ça nous oblige à changer un peu de paradigme et pour des astrophysiciens, c'est encore un peu déroutant.
Je lis, je me nourris de lecture, j'écoute, je me nourris de rencontres. Quand j'ai bossé sur Cosmos 1969, je suis allé rencontrer un astrophysicien. Et à partir de là, à partir de ce qu'il me raconte, je me mets sur les machines et je laisse venir ce qui vient. Je cherche, en fait je prends mes synthés. Puis je vais chercher sur la matière sonore, ça va devenir un peu plus fort. Dès lors que le cosmos est un endroit où il n'y a pas de son et où tout ce qu'on va proposer comme son est de l'ordre de l'imaginaire, le synthétiseur, qui est un outil qui permet justement de sortir des sons de la nature, de sortir des sons des instruments produits acoustiquement, c'est un beau support, c'est un support qui permet effectivement de créer de la matière sonore à partir de zéro. Donc là, en fait, je me fabrique une vision un peu naïve de l'univers, c'est-à-dire une espèce de truc qui serait... Comme un paysage de base, quoi, comme un espèce de fond initial cosmique. Tout ça est très naïf, hein, on est bien d'accord, hein, pas scientifique du tout. Et sur cette base-là, qui évolue un peu librement, je vais me perdre dans la matière. Alors, il y a un autre truc, moi, qui me paraît lié à la notion de cosmos, c'est la notion d'infini. Et les chambres d'écho à bande, si on les met en saturation, on va dans quelque chose qui est une espèce de boucle infinie, en fait. Et ça donne un truc comme ça. Pas la note. Là, la note varie, c'est pas moi qui l'ai fait varier. Moi, j'adore quand il se passe ça. Je peux. Après, je sais que si je fais ça, hop, voilà, je l'ai restabilisé. Donc voilà, c'est de la recherche de timbre. On travaille sur la hauteur du son, on travaille sur des filtrages, sur des mélanges d'oscillateurs. Et on peut comme ça partir dans des univers. La musique, c'est l'art de jouer avec les sons. On rentre dans la matière sonore et on réagit, on interréagit avec ce qui se passe dans l'instant. C'est-à-dire qu'on accepte de perdre une certaine maîtrise et on rentre dans la matière. Et j'aime bien ça. Oui, moi j'ai envie de continuer à explorer, quoi.
Et tous les Niçois connaissent l'observatoire. Quand tu leur dis où tu travailles, tu dis sur la colline, l'observatoire. Oui, c'est ça. C'est une grande référence.
Et voilà, ça c'est la grande lunette de cette coupole. Elle fait 18 mètres de long. Et côté ouverture, là on est sur du 78 cm. Donc les deux lentilles à l'entrée ont 78 cm de diamètre chacune. Ce qui en fait la quatrième plus grande lunette astronomique du monde. Et donc là encore, pour la protéger, on a une coupole. 24 mètres de diamètre, plus grande coupole mobile d'Europe. Réalisé par Gustave Eiffel. Ouverture dans 5, 4, 3, 2, 1.
C'est-à-dire que quelque part là-haut, il y a deux trous noirs de 30 fois la masse du Soleil qui ont fusionné. Quand on s'arrête un peu et qu'on y réfléchit, il y a un moment waouh quand même.
Depuis que je suis gamin, je sors dehors pour regarder les étoiles. Et ce rapport aux étoiles, il m'a permis de comprendre le rapport que j'ai à la vie. C'est-à-dire qu'à la fois, j'aime bien avoir un rapport purement esthétique aux choses. Je sortais la nuit d'abord parce que je trouvais ça beau. Et ensuite, j'aime bien comprendre les choses. Donc j'aime bien me documenter. J'ai un rapport un peu technique et scientifique au monde, malgré tout. Et les étoiles permettent ça. Le rapport au cosmos permet ça.
C'est presque le seul endroit où on n'est pas encore allé, à part peut-être les fonds des océans, mais sinon on a exploré les pôles, les déserts, les forêts. Et donc dans ce sens-là, l'espace, c'est encore l'inconnu, l'exploration. On a accès à des phénomènes physiques extrêmes qui peuvent parfois être très anciens et qui nous viennent du tout début de l'univers. Donc je pense que c'est tout ça qui nous fait rêver. C'est un peu... Peut-être qu'il y a aussi l'idée qu'on n'est pas tout seul et que quelque part dans cet espace, il y a de la vie. Alors, je ne sais pas du tout sous quelle forme, mais il doit y avoir d'autres êtres intelligents qui comprennent des choses. Et je pense que tout ça nous fait rêver. Ce qui m'a poussée vers ce métier, c'est juste l'envie de comprendre et de me dire que je suis une des premières personnes à comprendre telle ou telle chose et à découvrir des choses. C'est ça qui me fait avancer. Et pour ça, les ondes gravitationnelles, c'est merveilleux parce que les premières détections sont toutes récentes. Et donc, on a énormément de choses à apprendre. On peut proposer énormément de théories. La plupart seront très probablement fausses. On va le savoir dans les prochaines années. Et c'est pas grave du tout de se tromper. Mais j'aime beaucoup ce plaisir-là, de juste d'explorer, en fait. Souvent, on connaît les chercheurs pour... les travaux qui marchent, et les publications qu'on fait, c'est évidemment les idées qui ont marché, ou à peu près. Mais avant d'avoir une bonne idée, généralement, on en a beaucoup qui sont moins bonnes, qui ont déjà été faites, qui sont carrément fausses. Et cette exploration, pour moi, elle est nécessaire, parce que de temps en temps, je vais me dire, ah oui, mais ça, c'est une vraie bonne idée, et c'est là que le plaisir arrive. Mais le tâtonnement et l'erreur, ça fait partie du jeu tous les jours. Moi, j'ai l'impression que pour être un bon scientifique, il faut énormément d'humilité, parce que quand on comprend quelque chose, il y a 10 nouvelles questions. Et alors, au tout début, quand on commence à faire des recherches, on croit qu'on sait plein de choses parce qu'on a fait un master, on sait plein de choses, et puis on se rend compte très rapidement qu'on ne sait rien et qu'il faut accepter que la plupart des choses sont beaucoup plus compliquées que nous. Aussi, de laisser libre cours à son imagination, parce que à la fois pour être artiste et être scientifique, il faut être très créatif. On est amené à proposer quelque chose qui n'existait pas. Et c'est pour moi tout simplement la recherche de la beauté, en fait. La beauté, ça peut être parfois des choses très simples, une fois qu'on a compris très fondamentalement ce qui explique un phénomène, et toute la complexité qu'on peut en tirer aussi. Et ce côté très simple de quelque chose de beau, d'harmonieux, oui, je pense que c'est au cœur de beaucoup de chercheurs, comme un élément moteur, même si on ne sait pas forcément l'exprimer.
On peut assez vite penser que le regard scientifique s'oppose à la poésie, et en fait, pour moi, c'est l'inverse. C'est-à-dire que plus on apprend de choses scientifiquement, plus on se rend compte de la dimension de ce qu'on ne sait pas, et de ce qu'on ne maîtrise pas, de ce qu'on ne maîtrisera jamais. Avoir un rapport scientifique au monde, c'est aussi justement accepter qu'il y a toute une part d'invisible. Et moi, ça me plaît, et ça rejoint la dimension de la création. Ça, c'est un bol en silice. Moi, ce qui me fascine, c'est le temps de résonance de ce bol. Voilà, la résonance continue. C'est la pureté du son. Et c'est aussi l'espace que prend le son autour de lui. C'est-à-dire que si on étudie la vibration du bol, ça n'arrête pas de bouger, en fait. Il envoie le son dans un sens, puis dans un autre, puis dans un sens. Pour moi, il y a tout, en fait. Il y a tout. Il y a le timbre, il y a l'évolution du timbre, il y a la résonance. Et il y a l'espace.
Au moment de la première détection des ondes gravitationnelles en 2015, quand j'ai compris que c'était vrai et que c'était la fusion de deux trous noirs de 30 fois la masse du Soleil qu'on a détectée. Et en fait, 30 fois la masse du Soleil, c'est beaucoup plus que ce qu'on avait prédit. On aurait plutôt prédit 5 ou 10. Et que j'ai compris ça, j'ai eu des milliers de questions qui sont arrivées dans ma tête. Et c'est cette explosion de « qu'est-ce que je vais pouvoir faire de tout ça ?» Ouais, ça reste un moment assez magnifique, oui.
Les premières fois où je suis sorti dehors pour regarder les étoiles, j'avais un rapport purement esthétique, je ne connaissais rien au ciel. Donc je voyais des myriades d'étoiles et je trouvais ça juste magnifique. Et puis mon père a remarqué ça, il m'a offert une lunette astronomique, qui était un magnifique cadeau. Et évidemment, avec la lunette, il y avait un bouquin d'astronomie, parce que dès lors qu'on veut observer des planètes, des choses comme ça, des galaxies, il faut se repérer dans le ciel. Et le système de repérage dans le ciel qui a été inventé, c'est les constellations. Donc j'ai appris les constellations. Et au début, j'étais super content de connaître les constellations. C'est-à-dire que je reconnaissais Cassiopée, Orion, tout ça. Et c'est vachement bien. On a une sensation de connaissance, une sensation de maîtrise. Et puis en fait, assez vite, j'étais hyper triste, en fait. J'avais quitté un certain regard. Le regard purement esthétique, le regard naïf. C'est un mot qui, en ce moment, est très important pour moi. Le rapport naïf aux étoiles, le fait de justement de ne pas avoir de point de repère, eh ben, il me manquait, en fait. Et j'ai fini par comprendre que j'ai un peu le même rapport à la musique. C'est-à-dire qu'à la fois, oui, le solfège, c'est super pratique pour faire tout un pan de la musique. Oui, les constellations, c'est super pratique pour se repérer. Mais il y a un truc qu'on perd. Il y a un rapport naïf qu'on perd. Et moi, j'ai envie de garder ce rapport naïf à la vie. Alors, ça peut paraître un peu artificiel, mais j'essaye de retrouver ça.
Quand on devient expert, on voit les choses effectivement du côté très scientifique. Mais honnêtement, je pense que j'ai gardé le côté extrêmement enfantin. Je pense qu'il faut garder ce côté naïf, ce côté curieux, parce que sinon on ne fait pas la recherche. Et ce qui est très amusant, c'est que quand je suis quelque part, et que c'est la nuit que je sors, la première chose que je fais, c'est que je regarde le ciel. Même en ville, je ne sais pas pourquoi. Pourtant, en ville, on ne voit pas grand-chose. Mais c'est le réflexe pour moi de regarder là-haut et de me dire qu'est-ce qui se passe là-haut. Ce côté merveilleux, et il reste quand même.
Des générations entières d'astronomes qui se sont succédés dans cette époque.
Moi, je suis venue ici pour la première fois en 2013. J'étais jamais rentrée dans une coupole astronomique de cette taille ou dans un bâtiment aussi chargé d'histoire. Et j'avoue que on se sent tout petit ici. Les plus grands télescopes, la plupart, sont au Chili. Et moi, c'est un de mes rêves d'aller les voir, ces énormes télescopes de 8 mètres qui sont parmi les plus grands du monde. Et je ne suis pas du tout croyante, mais moi, j'ai un côté rentrer dans une cathédrale, en fait. J'ai presque envie de me taire, de prendre un moment solennel, de me laisser porter par le côté un peu grandiose. Et j'ai vu des très grands télescopes à Hawaï. Et là, oui, j'avais presque un sentiment religieux, en fait. Au plafond, et puis le fait que pour moi le côté temple du savoir il a du sens.
Il s'est passé un truc il y a quelques années. J'ai vu un bouquin qui s'appelait Résonance, signé par Hartmut Rosa. Je commence à lire Résonance, et là, je me rends compte que c'est un bouquin de philo. C'est pas du tout un bouquin qui parle de son, c'est un bouquin de philo. En fait, il a écrit Résonance en réaction à l'accélération de nos sociétés. Il aurait pu appeler ça ralentissement, mais lui, son pari, c'est que la réaction face à l'accélération, ça n'est pas uniquement le ralentissement, c'est la recherche de résonance. C'est la résonance qui peut exister entre deux êtres humains. Mais c'est aussi la résonance qui existe, en tout cas que moi je vis, si je vais au bord de la mer, que je me mets tout simplement face aux vagues, je sens qu'il y a un truc. Je sens que la nature me transmet quelque chose et que peut-être moi j'arrive à transmettre un tout petit truc à la nature. Parce que la résonance, c'est quand même, il y a cette idée d'aller-retour. Donc la résonance, c'est finalement se rappeler que l'être humain est un élément de la nature et que là on est en train de s'en éloigner, mais... de façon complètement folle, quoi. On utilise des outils qui nous éloignent de nos propres rythmes, qui nous éloignent de la nature. Moi, quand j'étais gamin, je vivais en banlieue parisienne, on voyait encore les étoiles. La pollution atmosphérique, la pollution lumineuse surtout, fait qu'aujourd'hui, sortir dehors la nuit et regarder les étoiles, ça devient difficile. On est en train de se déconnecter de quelque chose d'important, et je pense qu'il y a un phénomène de résonance qui peut... Enfin, moi, je pense que c'est ce que je vivais gamin. C'est ce que je continue de vivre quand je me mets face aux étoiles.
Le fait d'avoir grandi à la campagne, j'avais pas réalisé que j'avais cette chance d'avoir un ciel relativement propre. Et en fait, je réalise que beaucoup d'enfants, maintenant, grandissent sans peut-être jamais avoir vu vraiment le ciel. On a vécu plusieurs années aux États-Unis, et aux États-Unis, il y a encore des régions où on trouve vraiment du ciel encore très pur, beaucoup plus qu'en France. Parce qu'en France, même quand vous allez dans les Alpes ou dans le centre de la France où il y a moins de gens, vous avez quand même des traces de la civilisation humaine qui sont assez évidentes quand vous regardez le ciel. Il y a quand même une luminosité ambiante qui est là. Mais quand vous allez dans les grands parcs nationaux aux États-Unis, vous pouvez être vraiment loin de tout. Et là, le ciel que vous avez, il est tout simplement magnifique. Et c'est vraiment là, quand j'ai vu ça, au milieu du désert, que j'ai senti la beauté du ciel, sans le côté scientifique, juste à quel point c'est beau, et je me dis, faudrait que tout le monde voit ça au moins une fois dans sa vie.
Une sensation d'appartenir au monde, d'appartenir à l'univers, à la fois d'en être un microbe, mais à la fois d'y appartenir quand même. C'est ça qui est troublant dans le phénomène de résonance, c'est que ça peut être vertigineux, mais à la fois c'est un vertige qui redonne des points de repère. Peut-être il faut accepter le vertige pour retrouver les points de repère. Et la résonance, c'est ça, c'est cette idée qu'il faut se reconnecter au monde, se redonner du temps. Et c'est vrai que le son, c'est quand même une dimension particulière, le son. S'il n'y a pas de temps, il n'y a pas de son. Le son fixe n'existe pas. Donc, travailler le son, c'est travailler avec le temps et être sensible à la question de l'accélération, du ralentissement et de la résonance, donc résonance au sens large.
Un documentaire sonore de Jeanne Lévédère, avec les voix d'Astrid Lambert, astrophysicienne à l'Observatoire de la Côte d'Azur, Robin Austin, médiateur scientifique, et Thierry Ballas, compositeur et créateur de spectacles. Un grand merci à eux. Créadoc, Angoulême, 2022.
La séance des gymnastiques sonores hebdomadaires touche à sa fin. Vous avez entendu Sound and Color d'Alabama Shakes, ainsi que Faire quelque chose de la nuit et Résonance, deux documentaires de Jeanne Lévédère, créatrice sonore rennaise. Pour plus d'informations sur notre émission, sur Jeanne ou sur notre association, rendez-vous sur le site canalb.fr. À la semaine prochaine.
Gymnastique sonore.
Une émission de développement musculaire
intra-auriculaire.